Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et pas avec n'importe qui. Parce que nous allons finir l'année 2024 avec un romancier, un scénariste, prix Renaudot en 1900...
Il y a longtemps.
40 ans ?
En 91.
91, en fait, un peu plus d'autres. Et c'est Dan Franck qui nous accompagne.
Bonjour.
Dan Franck, bonjour et merci d'être devant les micros de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous vous accueillons aujourd'hui pour ce qui est le premier volume d'une trilogie à venir, le roman des artistes, le tome 1, romantisme au pluriel, et c'est chez Grasset. Alors Dan Franck, comment dois-je vous présenter ? Et si je vous demandais de le faire ?
Eh bien, écoutez, c'est simple. Je m'appelle Dan Franck. J'écris depuis à peu près toujours. Et je suis écrivain, scénariste. J'ai fait des films et des séries télévisées. Et ce livre-là doit être à peu près... J'ai dû en publier une trentaine. Parfois seul, parfois avec mon ami Jean Vautrin qui n'est plus là. Nous avions fait ensemble les aventures de Borro, reporter, photographe, que j'ai continué tout seul. Et de même, j'ai travaillé avec mon ami Enki Bilal, où nous avons fait quelques livres ensemble. Voilà.
Alors, romantisme au pluriel, c'est celui qui nous occupe. L'avant-dernier, c'était l'arrestation sur lequel vous reveniez sur un épisode fort douloureux de votre existence.
Oui, c'est un livre dont j'ai du mal à parler, en fait. C'est un livre assez personnel, qu'on peut lire comme un polar, qu'on peut lire comme un récit de la société dans les années 80, qui est un récit sur l'engagement, qui est un engagement personnel assez maladroit, on peut dire peut-être. Voilà.
Et c'est l'arrestation, donc, hein, le titre de ce récit, alors polar, avec une forte charge autobiographique.
Oui, absolument.
En revanche, le roman des artistes, romantisme, alors on n'est pas dans l'autobiographie, on est sans doute dans l'amour de la République des Lettres au XIXe siècle, République des Lettres, qui doit s'imposer au milieu de différents monarques qui apparaissent en France, et puis des figures littéraires hautes en couleur comme on les aime dans notre beau patrimoine littéraire.
En fait, ce livre fait suite à un autre que j'ai publié il y a déjà assez longtemps, et qui s'appelle « Bohème, Libertad et Minuit ». C'était trois tomes, c'est une trilogie qui a été réunie dans un livre unique qui s'appelle « Le temps des Bohèmes » et qui raconte la vie des artistes entre 1904, 1905 et 1945. C'est-à-dire, les personnages en sont Picasso, Apollinaire, je commence avec eux, et je termine avec Jean-Paul Sartre en racontant le surréalisme, la guerre de 14, la guerre de 40, et donc... Celui-ci, le roman des artistes, c'est la période avant, c'est la période romantique. Ce que je veux dire, c'est que tout ça s'inscrit dans un circuit qui est le mien, qui est sur la mémoire, sur l'attachement que j'ai pour les artistes, pour notre littérature, notre peinture, notre sculpture, notre musique. Et donc, c'est une fresque. En fait, c'est une fresque qui, quand elle sera finie, va couvrir l'histoire de la France, en fait, entre 1820, je commence à peu près à cette époque-là dans le roman des artistes, jusqu'à 1945, quand on lira ce que j'avais déjà publié en amont.
Voilà. Alors, le livre s'ouvre même en 1815 avec un jeune homme qui, à Villers-Cotterêts, attend le passage de la berline de l'empereur qui vient de débarquer au sud de la France et qui veut retourner, reconquérir le pouvoir.
En fait, ça commence aux 100 jours. Et alors, en fait, je commence en effet par ce jeune garçon qui voit passer à Villers-Cotterêts une voiture, et dans cette voiture, il y a l'empereur. Et l'empereur va commander ses armées à Waterloo. Et puis il va revenir peu après sous le regard de ce jeune garçon. Et l'empereur est défait. Il a perdu. Il sait qu'il a perdu la guerre. Il sait qu'il a perdu le pouvoir. Il sait qu'il va abdiquer. Et ce jeune homme, c'est Alexandre Dumas. Voilà. Et c'est celui qui ouvre, je dirais, parmi les artistes de cette série, c'est celui qui ouvre le livre et qui ouvre l'histoire. Et pourquoi Napoléon ? C'est parce qu'en fait, tous les artistes de cette époque se considéraient qu'ils étaient les petits-fils de la Révolution et les enfants de l'Empire. Voilà.
Oui, c'est ce que vous expliquez. En fait, le romantisme est tout de même enfant de la Révolution. Oui. Et puis, il y a cette nostalgie où l'on pouvait devenir un haut gradé de l'armée impériale à 21, 22 ans.
Le père d'Alexandre Dumas. Je suis en train de faire un film sur le père d'Alexandre Dumas, qui était un personnage extraordinaire. Je raconte son histoire dans le livre. C'est un esclave qui a été vendu par son père, lequel l'a racheté et c'est devenu un général de l'armée napoléonienne, un très grand général noir. Il était noir. C'était un des rares officiers supérieurs noirs de l'armée française et c'était un héros. Et quand on connaît la vie de cet homme, on comprend en fait les obsessions littéraires d'Alexandre Dumas. Et tout mon sujet en fait dans ce livre, c'est de raconter l'histoire personnelle et la mêler à l'histoire nationale, si j'ose dire.
L'histoire avec un grand H, oui, et c'est les ça. Histoires ouais. De ces grandes figures de notre littérature du 19e siècle.
Et les siècle. Peintres aussi, les peintres et les musiciens.
Absolument. Alors, Alexandre Dumas tient une place de choix, me semble-t-il.
Alors, ces livres-là, il y aura 4 tomes. Donc, sur le premier, c'est Alexandre Dumas, parce que les faits que je raconte sont tous fondés, historiquement fondés, et même personnellement fondés. Leurs amours, leurs enfants, leur rapport avec leurs enfants, leur rapport avec la famille, leur rapport avec l'État, leur rapport avec les souverains, sont des choses qui sont toutes justes. Mais moi, je suis romancier et pas historien, donc je vais derrière les historiens. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois leurs sources, mais aussi d'autres sources qui sont des sources de l'époque et qui sont extrêmement intéressantes, qui sont les journaux intimes, qui sont les voilà. Et je raconte tout ça, quoi, dans une espèce de... comme un roman, en fait, voilà. Ça s'appelle le roman d'artiste parce que je suis romancier, en fait. Et que ce qui m'amuse, c'est de faire les portraits, leurs portraits.
Parce que parfois, vous décrivez les intérieurs des écrivains, leurs salons. Mais là, c'est pure invention.
Non. Quand je décris, par exemple, Balzac qui arrive dans les salons, que ce soit, enfin, peu importe les salons, parce qu'il les fréquentait tous, mais ce sont des salons qui sont tenus par des femmes, souvent, Mme Récamier ou d'autres. Mais quand il arrive dans les salons, Balzac, il est très... Bon, je les décris parce que je les ai vus décrire quelque part dans mes archives. Et je décris surtout Balzac. Ce qui m'amuse, c'est de décrire Balzac qui arrive là-dedans comme une espèce de lourdeau, mal élevé, mal éduqué, avec des dents un peu sales. Il mange presque avec ses doigts ou pratiquement. Et puis, il a une canne en or parce que Balzac, il a envie de richesse. Enfin, toute son histoire, c'est ça. Mais quand il commence à parler, il fascine tout le monde. Et c'est comme ça qu'il conquiert Paris. Et c'est vrai que j'ai envie de le raconter comme ça. J'ai envie d'entrer dans les salons parisiens à travers des personnages qui peuvent être Balzac, mais qui peuvent être Victor Hugo, qui peuvent être Delacroix, qui peuvent être Géricault, qui peuvent être Liszt, Chopin. Mais je préfère rentrer par la lucarne personnelle, les suivre et décrire ce qu'ils voient.
En tout cas, la belle Madame Anska, que Balzac... attention, Dan. La belle Madame Anska que Balzac va rencontrer pour la première fois au bord du lac de Neuchâtel, en Suisse, à Neuchâtel, elle-même est un peu choquée par la grossièreté du personnage lorsqu'il est à table, puisque Balzac, c'est un peu le genre à se moucher dans la nappe.
Absolument. Mais son histoire avec Mme Anska est une histoire absolument merveilleuse. C'est qu'un jour, il écrit 1, 2, 3 livres. Les femmes aiment beaucoup Balzac parce qu'il parle très bien d'elles. Et un jour, il reçoit une lettre d'une dame qui s'appelle Madame Anska, qui est une Ukrainienne, et qui commence à correspondre avec lui par petite annonce. Elle ne veut pas se démasquer. Et puis, Balzac comprend très vite qu'elle est riche, Et ça l'intéresse. Balzac, quand il avait 20 ans, il a écrit une lettre à sa sœur en lui disant « Trouve-moi une héritière riche. » Pourquoi ? Parce que Balzac était un très grand dépensier. Il était d'ailleurs très généreux. Mais il achetait des tableaux, il achetait des bricoles, il achetait des maisons, il les revendait. Enfin, il a eu toujours un problème d'argent, Balzac, tout au long de sa vie. Et donc, cette dame, Madame Anska, mais elle est riche. Le problème, c'est qu'elle, d'abord, elle habite loin, puis ensuite, elle est mariée. Mais quand même, il y a un échange comme ça qui se produit, un échange de correspondance. Et au bout de 3 lettres, Balzac lui dit « Belle inconnue, je vous aime », il ne l'a jamais vue. Hein. Et il la rencontre en effet en Suisse. Le mari est là, c'est un peu embêtant, il devient ami avec le mari. Et puis il se revoit, et elle devient sa maîtresse. Et pendant des années et des années, ils s'écrivent, ils se voient assez peu, hein, mais ils s'écrivent. Et elle le fait suivre à Paris parce qu'elle se renseigne. Lui, il dit « Je fais que travailler ». En vérité, il travaille énormément, c'est même incroyable. Et puis en même temps, il sort. Et puis
oui, il écrit 15 à 18 heures par
jour. Il écrit énormément. Et à un moment donné, quand il écrit à Namanska, parce que ces hommes-là ont écrit énormément, il lui dit « Mais rendez-vous compte, là, j'ai passé 3 heures à vous écrire. Eh bien, j'aurais pu faire un demi-feuilleton qui m'aurait rapporté 200 francs. » Et donc, bref, pour finir l'histoire avec Madame Anska, c'est qu'il rêve de se marier avec elle. Il attend des années, et le mari meurt. Quand le mari meurt, il va là-bas, il trouve c'est une propriété extraordinaire, avec beaucoup de serres. Cette dame est en effet très riche. Elle veut pas l'épouser tout de suite parce qu'elle a un peu peur de lui. Il est dépensier. Est-ce qu'il l'aime vraiment ? Puis le tsar veut pas. Alors il écrit au tsar où il voudrait. Et finalement, elle accepte de se marier avec lui. Il achète une maison à Paris. C'est elle qui paye. Parce qu'elle est riche, et puis il traverse la frontière pour se marier. Il se marie avec elle, il la ramène à Paris, et 2 mois plus tard, il meurt. Pauvre Balzac.
Pauvre Balzac. Néanmoins, il avait confié à Franz Liszt que pour être heureux, un homme devait avoir au moins 7 maîtresses.
Ouais, mais ils en avaient tous. Ils avaient...
Alors en fait, oui, c'est ça, Dan Franck, c'est qu'en vous lisant, on découvre que ces hommes ne tiennent pas en place.
Non, ils ne tiennent pas en place.
Ils ne pensent qu'à conquérir, alors non seulement le lectorat, oui, mais aussi le cœur des femmes. Et George Sand aussi, alors on en parlera de George Sand. Alors, elle aussi, c'est une dévoreuse d'hommes. Au moment de son divorce avec Dudevant, lui met en avant que peut-être elle a eu des relations saphiques.
Elle en a eu, oui, elle en a eu, absolument.
Oh, nous allons choquer tout le monde, Dan Franck.
Mais c'était une femme étonnante parce que son histoire aussi, c'est intéressant, raconte beaucoup sur la condition des femmes. C'est George Sand, elle est issue d'une famille très riche, sa grand-mère est très riche, donc en fait elle va hériter, mais quand elle épouse M. Dudevant, eh bien, la loi fait que c'est lui qui devient dépositaire de la fortune de sa femme. Et quand ils se séparent, parce que George Sand, à un moment donné, elle se marie très jeune, et puis elle divorce parce qu'elle est plus amoureuse de cet homme, qui d'ailleurs la trompe allègrement, de même, elle fait semblablement.
Il y a 2 enfants tout de même.
Il y a 2 enfants, alors ils ont des gardes alternées pour l'époque, c'est assez étonnant. Et le père a le fils, la fille, lui, ça change un peu. Elle est à Paris et lui, il reste à Nohant dans la propriété qui appartenait à George Sand. Elle se bagarre pour le divorce est interdit à l'époque, mais elle obtient une séparation de biens. Et son mari lui verse une pension. Et cette pension vient de la grand-mère de George Sand, qui est quand même absolument incroyable. Et cette femme, George Sand, a défendu la condition de la femme d'une manière incroyable et assez étonnante. Elle portait en effet des pantalons. Alors ça, c'est pas qu'une anecdote. Elle portait des pantalons il fallait une autorisation spéciale pour se rendre là où les hommes pouvaient aller, où les femmes n'avaient pas le droit d'aller.
Oui, vous nous expliquez qu'il fallait un permis de travestissement et qu'il fallait le demander à la préfecture.
Absolument. Absolument. Et elle l'a. Et donc, elle se bagarre. Elle est très engagée pour son époque. C'est-à-dire qu'elle fait rien jusqu'en 1830. La révolution de 1830, elle n'est pas là. Mais en 1848, elle monte à Paris. Elle est copine avec Arago et avec la prise de pouvoir, la fin de Charles X, le début de Louis-Philippe, et puis la naissance de la Première République. Tout ça, et elle participe à tout ça, George Sand. Et puis un jour, elle reçoit, et j'ai trouvé que c'était très intéressant cette histoire, elle reçoit au moment des présidentielles qui vont élire le premier président de la République, qui est Louis-Napoléon Bonaparte, elle reçoit une demande d'un groupe de femmes très engagées qui demandent de se présenter. Alors, on n'a pas le droit de se présenter aux élections, les femmes n'ont pas le droit, Mais les femmes se disent, bon, ben, si c'est elle, comme elle est quand même connue, ça fera bouger les lignes. Et elles refusent. Et elles refusent en disant, on est dépendante de nos maris et des hommes. En fait, libérons-nous de cette emprise masculine et après, on verra ce qu'on peut faire politiquement.
En tout cas, le premier roman de Aurore Dupin, puisque avant que d'être George Sand, elle est née Aurore Dupin. D'Anne Frank, un petit rappel pour les plus jeunes, peut-être, sur la manière dont Aurore Dupin devient George Sand.
Elle écrit un premier livre avec son amant de l'époque qui s'appelle Jules Sandeau. Un premier roman qui fonctionne plutôt pas mal. Et à un moment donné, ils se séparent. Et puis surtout, elle veut reprendre une identité. Elle veut prendre une identité. Alors, elle se demande comment elle peut s'appeler. Et c'est son éditeur qui lui dit, ben, Sandeau, on n'a qu'à couper et on fait Sand. Elle dit pas mal. Et Georges, ben, d'abord, c'est masculin, donc c'est quand même plus simple. Puis c'est surtout, c'est local. À Nohant, il y a des gens qui s'appellent Georges. Donc en fait, elle décide de s'appeler Georges Sand, qui n'est pas son vrai nom.
Jules Sandeau, on a un peu oublié.
Oui, on a oublié. Hein. Oui. C'est en fait, c'est un garçon qui, je suis méchant avec lui, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt. Il a écrit quelques livres qui sont pas formidables. Balzac l'a utilisé un peu comme aide à l'écriture, mais on l'a oublié en effet. On l'a oublié.
On n'oublie pas, en tout cas, en cette fin d'année, le roman des artistes, tome 1, Romantisme au pluriel, c'est chez Grasset, de d'Anne Frank, qui affronte aujourd'hui notre micro, mais en toute sérénité, d'Anne.
On a entendu, avec une tasse de thé en plus.
On marque un premier intermède musical et on se retrouve juste après.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se troublent, et le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de notre rendez-vous culturel et littéraire avec d'Anne Frank pour évoquer le roman des artistes. Alors c'est le premier tome, donc il y a Romantisme, deuxième tome...
Révolution, c'est la révolution de 1848.
Et puis le...
Je ne sais plus comment s'appelle le troisième.
Naturalisme ?
C'est impressionnisme. Oui, sûrement. Et après, c'est impressionnisme. En fait, la structure de ces livres, c'est... Je voulais raconter la vie des artistes pendant les trois révolutions du 19e, qui sont des révolutions fondamentales, puisqu'elles ont vu la naissance de la République moderne, en fait, qui étaient les révolutions de 1830. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est la révolution de 1848. Et le troisième, c'est la Commune. Et ensuite, je parlerai des impressionnistes qui arrivent derrière et qui vont nous conduire au début du XXe siècle.
Alors, revenons, puisque juste avant la pause musicale, nous parlions de George Sand. Les avis des écrivains contemporains de George Sand à son égard. Alors, certains l'admirent sans doute, mais
pas beaucoup.
C'est pas toujours tendre tout de même. Pour Delacroix, elle n'a pas de talent, elle écrit pour l'argent, ce qui la classe bon gré mal gré dans un rang inférieur. Flaubert parle d'elle comme le troisième sexe. Musset dit qu'elle est l'homme, lui-même étant la femme, selon Maxime Ducamp.
Oui, c'est Maxime Ducamp qui était très méchant.
Lamennais. Alors, Lamennais, c'est pareil, c'est un écrivain catholique.
Oui, c'est
alors,
ça, absolument.
Il a tourné le dos à George Sand quand elle a divorcé.
Oui, quand elle a divorcé, puis surtout quand ses engagements sont devenus plus importants que les siens.
Alors, Lamennais renifle chez elle une odeur de lupanar.
Oui, il faut quand même préciser une chose, c'est que ces gens-là, enfin, Delacroix a été à Nohant tout le temps, il aimait beaucoup George Sand. Flaubert est devenu ami avec elle, un peu sur le tard, mais ils sont devenus amis. Elle allait à Croisset et il venait à Nohant. Mais les contemporains ont été épouvantables, le pire étant les frères Goncourt.
Ah oui, je peux le citer, Dan Franck. Si on avait fait l'autopsie des femmes ayant un talent original comme Madame Sand, Madame Viardot, etc., on trouverait chez elle des parties génitales se rapprochant de l'homme, des clitoris un peu parents de nos verges.
C'est odieux.
Incroyable.
Alors moi, je me plais à citer un certain nombre de citations dans ce livre parce que ça montre l'époque. Ça montre l'époque. C'est-à-dire qu'elle était, on n'aimait pas George Sand, elle était méprisée. Quand elle a eu en effet une histoire d'amour avec Marie Dorval, qui est une comédienne merveilleuse.
Grande rivale de Mademoiselle Mars.
Grande rivale de Mademoiselle Mars, autre comédienne. Le théâtre à l'époque, le théâtre, il faut comprendre que le théâtre, c'était comme le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était des stars, en fait. On allait beaucoup au théâtre. Il fallait conquérir le monde par le théâtre. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Alexandre Dumas quand il est arrivé à Paris. C'est ce qu'a fait Hugo aussi. C'est ce qu'a essayé de faire Balzac sans y arriver. Mais le théâtre, c'était quelque chose d'absolument énorme.
Incontournable.
Et donc, George Sand a eu une petite histoire avant cette grande histoire avec Musset, dont je veux bien parler d'ailleurs, parce que c'est une histoire qui est un peu pipeau, en fait. C'est une histoire qu'on a gonflée d'une manière littéraire, mais qui n'a pas beaucoup de sens, en fait.
Alors, il y a eu la relation de George Sand avec Chopin. Alors, ça dure quand même 9 ans. C'est pas
ça dure. C'est d'ailleurs très étonnant, parce qu'on connaît la relation avec Musset. Je vais en dire un mot vite fait. Elle rencontre Musset. On est en plein romantisme. Lui, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils restent ensemble un peu. Ils vont à Rome. Et puis, ils vont à Venise. Et puis, à Venise, ils tombent malades. Et là, elle le fait soigner par un médecin qui s'appelle Pagello. Et puis, Pagello, il est pas mal. Donc elle se tape le Pagello. Lui, Musset, il va voir les danseuses de Venise. Et puis ils finissent par se séparer assez vite. Puis ils reviennent un peu ensemble, mais c'est compliqué. Et en fait, ils s'envoient des lettres où ils pleurent. Les Confessions d'un enfant du siècle, qui est d'ailleurs un livre remarquable sur l'époque. Hein, mais il pleure tout le temps, il raconte son histoire avec George Sand. Mais
vous nous dites même que le mot larme apparaît à 70 occurrences.
Oui, je l'ai compté. Ouais. Avec les ordinateurs, c'est assez facile. Enfin, il pleure tout le temps. Et puis alors, on a écrit, elle et lui, il y a eu beaucoup de littérature de l'époque autour de leur amour, mais leur amour, en fait, il a duré très peu de temps. Alors qu'on ne parle pas, en tout cas beaucoup moins, de son amour pour Chopin, où en effet, elle est restée avec Chopin très longtemps, elle l'appelait mon cher cadavre d'ailleurs. Elle a vécu avec lui, ils sont allés en Espagne, ils sont allés à Nohant, ils sont allés à Paris. C'est des amours romantiques étaient absolument celles-là, quoi.
Et Alfred de Musset dit de sa relation avec George Sand, « Tu t'es cru ma maîtresse, tu n'étais que ma mère, c'est un inceste que nous commettions. »
Ben oui, en fait... C'est très étrange, mais quand on regarde la relation de George Sand avec les hommes, elle était très, très maternelle. Elle était très maternelle. Elle les protégeait, c'était une maman. Voilà, c'était une maman. Je m'étends assez peu sur sa sexualité parce que au fond, elle, j'ai pas envie de raconter ça, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, parce que ça a du sens, mais enfin, je veux pas jouer à ce genre de choses. Mais elle avait quand même une sexualité assez étrange, assez. Au fond, cette femme qui passe pour une dévoreuse d'hommes, les dévorait du bout des lèvres, si j'ose dire.
En tout cas, Dumas écrit de George Sand, ce mâle et vigoureux génie qui a nom George Sand.
Oui, oui, il fait partie Dumas. Et pourtant, ils deviennent amis aussi à un moment. Et à un moment, ils ont failli se battre en duel. Enfin, l'époque veut ça. Les amitiés sont des amitiés souvent jalouses. Beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de jalousie à cause du feuilleton dont on parlera sans doute. Il y a beaucoup de jalousie entre les uns et les autres. Il n'y a pas beaucoup de solidarité.
Alors, ce qui m'a...
Pardon. Sauf... quand on les attaque, par exemple, il y a une solidarité autour de Flaubert quand Madame Bovary va être attaquée en justice, par exemple.
Là, c'est 1857, c'est un peu après, c'est la seconde moitié du
siècle. C'est le deuxième tome que je suis en train de finir.
En revanche, Dan Frank, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'attitude de Théophile Gautier quand on lui demande de reconnaître un enfant. Et qu'il dit, ah non, plutôt me battre en duel que me marier, plutôt me battre en duel que de reconnaître cet enfant. Aujourd'hui, ces hommes, on pourrait les regarder comme d'affreux personnages.
Ah ben, ils avaient tous des maîtresses, plein. C'était public, ils ont eu des enfants naturels, plein. Il y a l'histoire, la fameuse histoire que je raconte de Victor Hugo, je ne sais pas si c'est dans ce tome-ci ou dans le suivant, parce que je suis dans le deuxième.
Où l'huissier vient constater.
Oui, c'est ça, elle
constate
dans ce tome. Celui-là, hein. Victor Hugo avec les femmes a été absolument incroyable. C'est-à-dire, il avait une femme qui elle-même était à une liaison avec Sainte-Beuve, ce qui a rendu d'ailleurs Hugo assez malheureux à l'époque. C'était au début, il n'avait pas encore écrit Hernani. Et puis il rencontre Juliette Drouet, qui est une actrice. Pas très bonne actrice.
Plutôt mauvaise comédienne.
Mais ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et elle est assez pauvre. Et Victor Hugo lui dit, moi je m'occupe de tout. Mais tu ne sors pas. Tu te consacres à moi. Voilà. Et donc il va avoir deux secrétaires. Sa femme, qui va un jour écrire Victor Hugo raconté par lui-même. En vérité, c'est sa femme qui écrit sous la dictée de Victor Hugo. Parce que Victor Hugo avait quand même un amour de soi très prononcé.
C'est Ego Hugo. Hein.
Ego Hugo. Et un jour, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Launay. J'ai oublié son prénom. Peu importe. Bon, Mademoiselle Launay, qui est jeune. Et alors donc, ils prennent un studio ensemble. Et puis un jour, on frappe à la porte. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le mari et un huissier. Constat d'adultère. Hugo, à l'époque, il est pair de France. Pair de France, ça veut dire sénateur. Donc, évidemment, sénateur, se faire prendre en constat d'adultère, c'est un peu difficile. Et la loi, à l'époque, est assez simple. La fille va directement en prison. Mlle Launay est partie en prison directement, à la prison des femmes. Et les hommes, si le mari porte plainte contre l'amant, il y a procès. Mais si le mari ne porte pas plainte contre l'amant, on écrase l'histoire. Et Victor Hugo va voir le roi Louis-Philippe, avec qui il s'entend plutôt bien, il lui raconte l'histoire, et Louis-Philippe se renseigne, et le mari est peintre, donc en fait il fait acheter trois tableaux par le palais, et il dit en échange, vous ne portez pas plainte contre Victor Hugo. Donc Victor Hugo s'en sort très très bien, alors que la pauvre malheureuse est en prison. Alors c'était un peu la honte, parce que lui, Victor Hugo, il avait un... Enfin, bon, c'est un garçon moral, mais... C'est un personnage, enfin Hugo, c'est un personnage absolument
Alors de tous ces écrivains, c'est peut-être le moins rebelle.
C'est
parce
le moins rebelle.
Il est royaliste tout
oui,
de même.
Mais, en fait, quand vous lisez les articles de l'époque, les commentaires de l'époque, Hugo, il est considéré comme un opportuniste. Pourquoi ? Parce qu'il est royaliste, il défend Charles X, qui lui offre d'ailleurs des assiettes qu'on retrouve à Guernesey, il défend Louis-Philippe. Et au moment de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, il le défend. C'est-à-dire qu'en fait, il vote pour lui. D'ailleurs, il est défendu par Proudhon aussi. Hein, voilà. Et puis ensuite, il s'oppose à lui. Et là, il est expulsé de France. Et là, il change complètement. C'est-à-dire qu'il passe de la droite à la gauche. Et là, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il est totalement engagé. Il aide beaucoup les réfugiés. Il écrit Napoléon le Petit, il se bat contre Napoléon par sa plume, il est exilé à Jersey puis à Guernesey, et il s'engage, mais de l'autre côté, quoi. Et il s'engage de manière courageuse. Cela dit, donc, moi, quand on suit son évolution, il est en effet totalement opportuniste, mais en même temps, il y a dans l'histoire d'Hugo quelque chose qui explique un peu ça, c'est que son père est un général napoléonien, haut placé, qui est en Italie, en Espagne, et sa mère le trompe, puisqu'elle reste à Paris, avec un royaliste. Et ce royaliste, c'est comme un parrain pour Hugo. Il s'occupe de lui, son père n'étant pas là. Et donc Hugo, il a toujours été déchiré entre ces deux parties, son père, sa mère, la droite, la gauche, je dirais, pour le faire un peu simple.
En tout cas, Hugo, contrairement à Balzac, j'allais dire, reçoit des honneurs.
Il adore ça.
Hugo, tous, hein. Quand même, rentre à l'Académie française, il a 39 ans. Oui. Ce que, bon, Balzac ne réussira jamais, ni Dumas d'ailleurs.
Dumas non plus. Non, mais Hugo il aime les honneurs. Il veut être élu, il veut être pair de France, depuis toujours. Il a une haute idée de lui-même et voilà. Et Hugo est comme ça. Mais tous, ils ont... En fait, il faut bien comprendre que... ils sont pas de famille... Aucun ne vient d'une famille de lettrés. Dumas, il doit être... il est promu pour être greffier, ou à peu près, ou clerc de notaire, plutôt comme Balzac. Et en vérité, ils défendent leur plume, comme c'est une phrase de Balzac et de Musset, d'ailleurs, ils défendent leur plume exactement comme leurs parents, leurs pères, ont défendu le Napoléon, avec l'épée. Leur arme, c'est la plume.
D'ailleurs, c'est bien Balzac qui avait une petite statue de l'empereur sur son bureau.
Ce qu'il a fait, oui, avec un petit écriteau, ce qu'il a accompli par
l'épée.
L'épée, je l'accomplirai par la plume.
Je reviens à Victor Hugo, d'Anne Frank. Victor Hugo, en fait, rejetait avec dégoût la grande œuvre de Stendhal, Le Rouge et le Noir.
Ah, c'était incroyable, mais personne n'aimait Stendhal. En fait, la seule personne qui défendait Stendhal comme écrivain, je parle, c'est Balzac. Mais autrement, pour Hugo, c'est du patois. Pour Flaubert, c'est pire encore. Et Stendhal est un personnage qui est un peu particulier parce qu'il est beaucoup en Italie. Et en fait, on le voit assez peu à Paris. Il est peu présent dans cette histoire.
Voici ce qu'écrit Hugo à propos du Rouge et le Noir. Hein. J'ai tenté de lire ça. Comment avez-vous pu aller plus loin que la quatrième page? Vous savez donc le patois? Moi, je ne me passionne pas pour des fautes de français. Chaque fois que je tâche de déchiffrer une phrase de votre ouvrage de prédilection, c'est comme si on m'arrachait une dent.
C'était très méchant, mais ils pouvaient être très méchants les uns avec les autres.
Alors, il y a tout de même, parce que nous l'avons dit au début de notre échange, pas de notoriété ou de reconnaissance à Paris et dans toute la France si on n'est pas dramaturge, si on n'est pas homme de théâtre. Victor Hugo, effectivement, se frotte au drame, au théâtre, et puis il y a cette grande bataille d'Hernani, 25 février 1830, où là, c'est le choc de deux générations.
Oui.
Non ?
Oui, bien sûr. Hugo, en fait, Hugo comme Dumas, parce que on parle beaucoup d'Hernani, mais Dumas l'a précédé quand même.
Henri III et sa cour.
Henri III et sa cour. La première fois où le mot romantisme est lâché, c'est pas à propos de Hernani, c'est à propos de la pièce de Dumas.
De Dumas.
Bref, mais Dumas théorise les choses. Pardon, Hugo théorise ce que Dumas ne théorise pas. Et Hugo, il casse les codes du théâtre.
Oui. Alors, c'est la préface de Cromwell, par exemple.
C'est la préface de Cromwell. Hugo, il dit, on arrête les vers, ou on fait des vers libres, et puis on montre... C'est comme Delacroix en peinture, en fait. Hein. On arrête de montrer les grands, ou alors on les montre sur une forme humaine. Ils ont des amours, les reines peuvent aimer des manants. Et donc quand Hernani se présente, c'est vraiment le manifeste du romantisme, c'est l'ancien monde contre le nouveau monde, quoi. Donc c'est une vraie bataille que décrit d'ailleurs fort bien Théophile Gautier qui était présent.
Oui, ça calotte, ça gifle.
Oui, non,
ça donne des coups de canne.
On sait que ça va être très difficile, donc en fait c'est comme un duel. C'est comme un duel qu'on organise. Il y a les troupes de Hugo qui sont là, il y a les troupes conservatrices qui sont de l'autre côté, et Hernani devient un scandale absolu.
Donc Hernani, 25 février 1830. Et alors, d'Anne Frank, je calculais l'âge de tous ces écrivains en 1830.
Très jeune.
Dumas, 28 ans. Ouais. Bon, Chateaubriand, évidemment, c'est un homme d'une autre génération, 62 ans.
C'est celle d'avant.
Mais on se souvient toujours cette phrase de Hugo qui disait « Je veux être Chateaubriand ou rien ».
Absolument.
Vigny à 33 ans, le jeune Hugo à 28 ans, Musset à 20 ans, Marceline Desbordes, 34 ans, Balzac à 31 ans, en 1830. Gérard de Nerval, qui ne promène pas encore son homard en laisse, a 22 ans, Georges Sand, 26 ans, Chopin a 20 ans, Berlioz a 27 ans. Effectivement, ce sont que des gens qui ont moins de 30 ans et qui vont accompagner ce romantisme dont on ne sait pas trop d'où il vient. Mais est-ce qu'il est allemand? Est-ce qu'il est anglais? Il n'est pas français? Si, un petit peu avec Rousseau et la Nouvelle Héloïse.
Oui, mais il est surtout allemand et surtout anglais. C'est Walter Scott, c'est Goethe, l'après-Goethe. Mais en fait, c'est un mouvement. En fait, on a appelé ça... c'est Hugo qui a dit ça. En fait, il dit... le romantisme, c'est le libéralisme dans l'art, quoi. C'est un peu vrai, c'est-à-dire, quand vous prenez Delacroix, parce qu'il y a aussi des peintres, je raconte des peintres, mais quand vous prenez Delacroix et que Delacroix peint la liberté guidant le peuple, en fait, contrairement à David qui peignait Bonaparte ou Napoléon dans ses campagnes, il montre des gens de la rue, quoi, des gens des... Alors, ce tableau, c'est extraordinaire parce que ça incarne absolument la révolution de 1830, et le romantisme d'ailleurs, alors qu'en fait, Delacroix, il n'en avait rien à fiche du romantisme.
Et même ici, il se reconnaît pas. Non. Il adhère à rien, lui.
Non, il est très individuel. Mais par exemple, Victor Hugo voudrait vraiment le recruter parce que c'est un peintre majeur. Et Delacroix veut pas, quoi. Il dit, moi, quand je suis amoureux d'une femme, je fais pas comme Chateaubriand et Lamartine. Je n'emmène pas au bord de l'eau en regardant les étoiles, quoi.
Mais Géricault, c'est intéressant aussi, Géricault, parce que bon, bien sûr, vous parlez de Baudelaire. On se souvient de ce poème où apparaît une charogne. Et finalement, en littérature, ce qui est important au XIXe siècle, la vraie révolution, c'est que c'est la dissonance tout d'un coup. Avant, il fallait montrer le beau, le bien. Or là, on montre une charogne en putréfaction. C'est cette audace de la poésie du XIXe siècle. Et finalement, Géricault en peinture, on n'est plus dans la grandeur d'une action héroïque ou des personnages de la mythologie. On est dans la réalité. Là, c'est le drame, je pense, effectivement, au radeau de la Méduse, d'Anne Frank. C'est une réalité affreuse de survivants.
C'est des survivants, en fait. C'est un bateau qui s'échoue. Et à un moment donné, il faut s'en sortir. Donc, le capitaine met des chaloupes à l'eau, fait monter les femmes et les officiers dans la chaloupe. Et puis, les marins, le petit peuple, on les met sur un radeau fabriqué... grossièrement, et puis à un moment donné le radeau est tiré par les bateaux, par les petits bateaux, puis finalement on coupe la corde et donc ils se bouffent les uns après les autres, et Géricault a peint ce drame mais d'une manière très très réaliste, c'est-à-dire que il est allé à la morgue, il a regardé comment les cadavres se décomposaient, enfin c'est quelque chose de très important, et Delacroix vient de cette école-là. C'est pas Ingres, hein. Je parle de Ingres qui est plutôt le représentant du classicisme à l'époque, alors que Delacroix et Géricault, c'est l'école nouvelle.
Alors Ingres, négocier ma passerelle. Ingres a peint Monsieur Bertin, qui est un grand patron de presse, et d'Anne Frank. Là aussi, vous rappelez combien il y a des hommes à la tête de grands, grands journaux qui non seulement, ont peut-être véhiculé une information un peu idéologisée, mais surtout a permis la diffusion de textes de romanciers.
Bien sûr.
Alors, soit dans des revues, soit au quotidien, et c'est l'invention du roman feuilleton, incontournable au XIXe siècle.
Alors, c'est un jeune homme qui va grandir avec son journal, qui s'appelle Émile de Girardin. Émile de Girardin, qui est donc un homme de presse. Et la presse, à l'époque, avant lui, les journaux sont très chers. On se les passe dans les cabinets de lecture, tellement c'est cher. Et lui, il a l'idée, deux idées. Il dit, je vais intégrer de la réclame, donc de la publicité, et je vais demander surtout aux écrivains d'écrire des textes, des romans, en fait, mais des romans, ce qu'on appelle à l'époque des romans à épisodes, c'est-à-dire des romans, on a envie de lire la suite. Donc vous achetez un journal, vous avez le début d'un livre de Balzac, parce qu'il a demandé à Balzac, à Dumas, à Hugo, enfin tous ces gens-là, à Georges Sand, d'écrire des feuilletons. Mais le principe, c'était, il faut absolument que quand on a fini le journal du jeudi, on ait envie d'acheter celui du vendredi, parce qu'il y a la suite du feuilleton. Et c'est ça qui lance la presse moderne, et c'est ça qui permet d'ailleurs à la presse de se démocratiser, parce que du coup, la presse devient beaucoup moins chère. Et en fait, en vérité, moi qui ai écrit qui suis scénariste aussi, qui ai écrit beaucoup de séries, et qui ai appris mon métier de scénariste en lisant la littérature du 19e, eh bien, les règles de la série sont très exactement les mêmes. Très exactement les mêmes. C'est-à-dire, C'est-à-dire, le principe, pareil, c'est de qu'on ait envie de regarder l'épisode suivant. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on construit des séries, ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire, vous savez, quand vous terminez un épisode, vous avez envie d'aller voir l'autre. Eh bien, à l'époque, Théophile Gautier appelait ça des traquenards d'intérêt. Donc les traquenards d'intérêt de la littérature du 19e sont devenus aujourd'hui des cliffhangers.
Ça s'appelle pour l'écrivain, à lui de savoir aussi découper correctement les extraits à livrer
Absolument. Quotidiennement
au journal. Alors bien sûr, le siècle a fait paraître en feuilleton Les Trois Mousquetaires de notre Alexandre Dumas. Il y a aussi en feuilleton Le Comte de Monte Cristo. Sainte-Beuve parlera d'ailleurs de littérature industriel.
Oui. Sainte-Beuve était très critique sur cette littérature. On peut le comprendre d'ailleurs, parce que quand même, à un moment donné, quand vous regardez Dumas, d'abord Dumas, moi j'adore Dumas. Honnêtement, je ne comprends pas que ce soit en Pléiade. Dumas, il écrivait à plusieurs. Il avait des collaborateurs. Il ne savait pas ponctuer. D'ailleurs, c'est Louis-Philippe, avant d'être roi, il engage Dumas, qui est bibliothécaire, et qui lui dit, mais attendez, je vais vous apprendre à mettre des points-virgules. Il y a Maquet, Auguste Maquet, qui est son premier collaborateur, qui lui donne l'idée souvent des livres. Mais il a un imaginaire absolument extraordinaire. Mais enfin, il va à la ligne tout le temps. C'est-à-dire, il y a un texte d'Umberto Eco qui est très célèbre, qu'on connaît là-dessus. Et moi-même, d'ailleurs, dans le livre, je donne un exemple. C'est par exemple, comme il est payé à la ligne, je suis arrivé à Dijon. Ah oui, c'est comment Dijon? Ah oui, c'est bien. Vous êtes sûr que c'est bien? Ah oui, c'est très bien. 1 euro. Et alors, vous allez y rester longtemps? Je sais pas encore. 2 euros. Vous savez pas encore? Non. 3 euros, etc. Quoi. C'est ça.
Je cite quelques auteurs qui ont été publiés en feuilleton dans la presse quotidienne française au XIXe siècle. Bon, Chateaubriand, quand bien même il est d'une autre génération, Dumas, Balzac, Eugène Sue, on va en parler, Georges Sand, Théophile Gautier, et puis plus tard, Paul Féval, Ponson du Terrail, Maupassant et Émile Zola. Alors, il faut parler de ce formidable Eugène Sue qui vient d'un univers plutôt huppé.
Alors, il faut
recadrer. Et qui ne connaît pas les bas-fonds de Paris,
oui,
lui.
Oui.
Hein.
Il faut savoir que, donc, en fait, il y a une grande concurrence des écrivains entre eux pour être les. En fait, comme ils veulent tous gagner de l'argent, Dumas vit d'une manière absolument. Il se fait construire un château. Plus la presse à laquelle ils sont liés vend et plus ils gagnent de l'argent. Donc ça conduit par exemple. C'est Balzac est l'un des premiers, puis il se fait dépasser assez vite par Dumas. Dumas, il écrit plein de livres en même temps. Le Comte de Monte Cristo, en même temps que Madame de Montsoreau, en même temps que. Enfin, beaucoup. Il est dans plein de journaux. Et là, Balzac, il est un peu jaloux, quoi. Et puis arrive Eugène Sue. Alors Eugène Sue, lui, en effet, c'est un dandy qui a de l'argent. Il est fils et petit-fils de médecin.
Qui était chirurgien de la garde impériale de Napoléon.
Absolument. Son père l'envoie, finalement c'est comme Baudelaire, son père l'envoie dans les pays lointains pour essayer de lui donner une espèce de discipline, je dirais. Et en fait, il revient et il habite Paris, il a une maison très chic. Il est au Rotary Club, il se balade à cheval au Bois de Boulogne dans la journée, il a des chiens de chasse.
Oui, mais il est riche, mais il est généreux.
Et donc, enfin, il est riche et généreux. Et puis un jour, il a un de ses copains qui lui dit « Mais tu connais rien au peuple, en fait. » Et qui l'emmène chez un ouvrier qui vit dans Paris. Alors je décris le Paris de l'époque, qui est quand même un Paris assez sordide, assez sale, sauf dans les quartiers ouest où il y avait la haute bourgeoisie ou la noblesse finissante. Et là, Eugène Sue passe une nuit à entendre cet ouvrier qui lui raconte la vie des prolétaires à Paris, la vie du peuple parisien. Et quand il sort de là, Eugène Sue s'exclame « Je suis socialiste ». Et il écrit « Les Mystères de Paris ». Et les Mystères de Paris sont un triomphe absolu.
C'est 20 ans avant Les Misérables de Victor Hugo.
Oui, mais on pense que Victor Hugo s'est probablement inspiré de Eugène Sue. Mais donc Eugène Sue, il a un succès absolument extraordinaire. Parce que Hachette, d'abord, le peuple se sent représenté enfin. Et puis les nobles achètent parce que c'est quand même frétillant, quoi. Comment vivent les autres, quoi. Et Eugène Sue est un type, moi, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce qu'il a appliqué dans sa vie les règles qui étaient les siennes, qu'il a découvertes après cette nuit passée dans une maison triste d'un ouvrier parisien. Il est devenu socialiste, en effet. Il a été exilé ou à demi exilé par Napoléon III, mais il a distribué sa fortune dans son village. Il donnait des, enfin, c'était un homme en effet très généreux. On lit plus beaucoup, de Les Mystères de Paris. Ça n'a pas le génie évidemment ni de Dumas ni de Hugo ni de Balzac, mais il le disait lui-même. Il était assez humble. Il disait, moi, j'écris pas très bien.
En tout cas, c'est Mystères de Paris, donc grand roman populaire, paru en feuilleton. Donc 1842-1843. Alors, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter sur tous les écrivains qui apparaissent dans...
Il y a les musiciens aussi.
Alors, il y a les musiciens, oui.
Il y a Berlioz, il y a Liszt, il y a Chopin, il y en a beaucoup qui participent de cette vie-là et de cette création. Vous savez, moi, je vais vous dire, l'idée de ces livres m'est venue un jour, il y a très longtemps, quand j'ai compris qu'au moment où on parlait, les pays s'industrialisaient, l'Angleterre d'abord, mais la France assez vite, et où on parlait de division du travail. Berlioz inventait l'orchestre moderne avec la division de l'orchestre en pupitre. Voilà. Et là, je me suis dit, on peut raconter l'histoire à travers les artistes. Et Berlioz, pour ça, est un personnage formidable. D'abord, il a des amours malheureuses, voilà, tous ces gens-là représentent quelque chose, quoi. Représentent quelque chose de par leur personnalité, mais aussi le développement de la société.
Mais alors vous, Dan Franck, vous êtes plutôt... Vous reconnaissez plus dans Gérard de Nerval promenant son homard, vous êtes plus Alexandre Dumas, qui d'ailleurs fait preuve d'un grand courage pendant les journées de 1830, parce qu'il va chercher de la poudre. Il s'engage physiquement.
C'est l'inverse de Victor
Hugo. On voit pas Victor Hugo aller sur les barricades.
Non, mais Victor Hugo, si, il est allé en 48, il est allé. Il était pair de France, donc sénateur encore une fois. Et il a été mandaté par l'Assemblée nationale pour essayer d'intervenir entre la troupe et les mutins, les révolutionnaires, les révoltés de Paris, le peuple. Et il a fait tirer sur le peuple quand même, hein, ce que Dumas n'aurait jamais fait. Alors Dumas, moi j'ai une grande tendresse pour Dumas. Voilà.
C'est votre préféré.
Bon, à cette époque-là, oui, parce que je trouve que... Il part avec rien, il a une enfance triste, il doit venger son père, quoi. Enfin, il y a une histoire de lui qui est très touchante.
Cher Dan Franck, vous avez été le dernier invité de l'année 2024 de Wagon Livre, l'émission.
J'espère que ça vous portera chance.
Ah, je le pense. En tout cas, je recommande le roman des artistes, donc le tome 1, Romantisme, c'est chez Grasset, pour revivre cette grande fresque littéraire.
Artistique.
Artistique, effectivement, peinture, musique, les soubresauts de la France, de la monarchie, la révolte, l'esprit révolutionnaire, hein, le bonnet rouge au dictionnaire notamment, puisque casser les codes et casser les clés de voûte d'une société, ça passe aussi par la littérature parfois. C'est ce que vous montrez à travers tous ces merveilleux personnages qui sont effectivement des... Alors tout est vrai, bien sûr, oui, mais on a l'impression que...
Un sur-romancier.
Leur vie est totalement romanesque, ouais. Effectivement. Merci Dan Franck. Si vous avez raté cette émission, on la retrouve en podcast sur yannickpetit.fr. Bon réveillon, bonne fin d'année,
beaucoup,
Dan Franck.
Merci beaucoup,
et
vous
puis,
aussi.
Mes meilleurs voeux pour 2025.
Voilà, et à tous, pareil, bon, meilleurs voeux. Et j'espère que l'année commencera mieux qu'elle n'a fini.
Espérons-le. Un peu d'espoir et d'espérance pour 2025. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à l'année prochaine.